Huitième partie, jour de naissance. Chapitre 19. Je rêve que je suis éveillée. Je rêve que je sors du lit et traverse la chambre. Pas cette chambre, et sors par la porte, mais pas cette porte. Je suis chez moi, l'un de mes chez moi. Et elle court à ma rencontre, dans sa petite chemise de nuit verte, avec un tournesol sur le devant. Pieds nus. Et je la soulève, et sens ses bras et ses jambes m'entourer, et je me mets à pleurer. Parce que je sais alors que je ne suis pas éveillée. Je suis de nouveau dans ce lit, à essayer de me réveiller, et je m'éveille. Et ma mère m'apporte un plateau et me demande si je me sens mieux. Quand j'étais malade, enfant, elle devait s'absenter de son travail et rester à la maison. Mais je ne suis pas éveillée, cette fois-ci non plus. Après ces rêves, je me réveille vraiment, et je sais que je suis vraiment éveillée, parce qu'il y a la couronne au plafond, et mes rideaux qui pendent comme une chevelure blanche de noyer. Je me sens droguée. Je réfléchis à cela. Peut-être est-ce qu'il me drogue? Peut-être la vie que je crois vivre est-elle un délire paranoïaque? Vain espoir. Je sais où je suis, qui je suis, et le jour que nous sommes. Tels sont les tests, et je suis saine d'esprit. La santé mentale est un bien précieux. Je l'économise, comme les gens économisaient jadis de l'argent, pour en avoir suffisamment, le moment venu. Une grisaille pénètre à travers les rideaux. Une luminosité voilée. Pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Je sors du lit, vais à la fenêtre, m'agenouille sur le rebord, sur le petit coussin dur, foi, et regarde dehors. Il n'y a rien à voir. Je me demande ce que sont devenus les deux autres coussins. Il a dû y en avoir trois un jour. Espoir et Charité. Où les a-t-on rangés? Serena Joy est une personne d'ordre. Elle n'irait pas jeter quelque chose qui ne soit pas complètement usé. Un pour Rita, un pour Cora. La cloche sonne. Je suis levée avant elle, en avance. Je m'habille sans regarder en bas. Je m'assieds sur la chaise et pense au mot « chaise ». Chair. On dit « le professeur est en chair ». La chaise, c'est aussi un moyen d'exécution capitale. En français, on peut confondre « chair » et « chair ». Et les premières lettres sont celles de Charité. Aucun de ces faits n'a de rapport avec les autres. Voilà le genre de litanie dont je me sers pour me rasseoir l'esprit. Devant moi, il y a un plateau. Et sur le plateau, un verre de jus de pomme, un comprimé de vitamines, une cuillère, une assiette contenant trois tranches de pain grillé, une coupelle de miel et une autre assiette sur laquelle est posé un coquetier. De ceux qui ressemblent à un torse de femme, revêtu d'une jupe. Sous la jupe, il y a le deuxième œuf, au chaud. Le coquetier est en porcelaine blanche avec une bande bleue. Le premier œuf est blanc. Je déplace un peu le coquetier pour qu'il se trouve maintenant dans le rayon de soleil délavé qui entre par la fenêtre et tombe, tour à tour brillant, puis pâlissant, sur le plateau. La coquille de l'œuf est lisse, mais aussi grenue. Le soleil accuse de petits grains de calcium comme des cratères sur la lune. C'est un paysage aride et cependant parfait. C'est le genre de désert dans lequel les saints se retiraient pour éviter que leur esprit ne soit distrait par l'abondance. Je pense que c'est à cela que Dieu doit ressembler. Un œuf. Il se peut que la vie sur la lune ne se passe pas à la surface, mais à l'intérieur. L'œuf irradie maintenant, comme s'il avait une énergie propre. Regarder l'œuf me procure un plaisir intense. Le soleil s'en va et l'œuf s'éteint. Je retire l'œuf du coquetier et le palpe un instant. Il est chaud. Les femmes portaient des œufs pareils à celui-là entre leurs seins, pour les faire incuber. Cela devait être agréable. La vie minimaliste. Le plaisir est un œuf. Bénédiction que l'on peut compter sur les doigts d'une seule main. Mais peut-être est-ce ainsi que l'on s'attend à me voir réagir. Si j'ai un œuf, que puis-je désirer de plus? Dans une situation de pénurie, le désir de vivre s'attache à d'étranges objets. Je voudrais avoir un animal, un oiseau par exemple, ou un chat. Un animal familier. N'importe quoi de familier. Un rat ferait l'affaire, quand on manque de tout. Mais c'est exclu. La maison est trop propre. Je tranche le bout de l'œuf avec la cuillère et mange son contenu. Alors que je suis en train de manger le deuxième œuf, j'entends la sirène. D'abord très loin, serpentant dans ma direction entre les grandes maisons et les pelouses tondues, un son grêle, comme un bourdonnement d'insectes. Puis, plus proche, s'épanouissant comme une fleur sonore qui s'ouvre, devient trompette. Une proclamation, cette sirène. Je pose ma cuillère. Mon cœur bat plus vite. Je vais de nouveau à la fenêtre. Sera-t-elle bleue, et pas pour moi? Mais je la vois tourner le coin, prendre ma rue, s'arrêter devant la maison, toujours hurlante, et elle est rouge. Joie et allégresse. Assez rares aujourd'hui. Je laisse le deuxième œuf à demi consommé, me précipite pour prendre mon manteau. J'entends déjà des pas dans l'escalier et des voix qui appellent. « Vite !» dit Cora. « Ils vont pas attendre toute la journée !» Elle m'aide à passer le manteau. Elle sourit réellement. J'enfile le couloir presque au pas de course. L'escalier est comme une descente à ski. La porte d'entrée est grande ouverte. Aujourd'hui, je peux la franchir. Et le gardien est là, qui salue. Il a commencé à pleuvoir. Une bruine et une odeur gravide de terre et d'herbe emplit l'air. L'âne automobile rouge est garé dans l'allée. Sa portière arrière est ouverte et je grimpe dedans. Le tapis de sol est rouge. Des rideaux rouges sont tirés devant les fenêtres. Il y a déjà trois femmes là-dedans, assises sur les banquettes, qui occupent la longueur du fourgon des deux côtés. Le gardien ferme et verrouille les doubles portes et grimpe devant, à côté du chauffeur. À travers la vitre grillagée, nous voyons leur nuque. Nous démarrons dans une embardée, tandis qu'au-dessus de nous, la sirène hurle.
« Dégagez ! Dégagez !»
Je demande à ma voisine « Qui est-ce ? » Je parle dans son oreille, ou là où doit se trouver son oreille, sous la coiffure blanche. Il me faut presque hurler, tant le vacarme est grand.
« De Warren !»
répond-elle à tue-tête. Impulsivement, elle me saisit la main, la serre, tandis que nous tournons le coin en cahotant. Elle se tourne vers moi et je vois son visage. Des larmes lui coulent sur les joues, mais des larmes de quoi? Envie? Déception? Mais non, elle rit, jette les bras autour de moi. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'étreint. Elle a de gros seins sous la robe rouge. Elle s'essuie le visage avec sa manche. Un jour comme celui-ci, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Je me corrige. Dans certaines limites. En face de nous, sur l'autre banquette, une femme prie, les yeux clos, les mains sur la bouche. Ou peut-être ne prie-t-elle pas. Peut-être se ronge-t-elle les ongles. Peut-être essaie-t-elle de garder son calme. La troisième femme est déjà calme. Elle est assise, les bras croisés, légèrement souriante. La sirène hurle. Hurle! C'était le bruit de la mort pour les ambulances ou les incendies. Il se peut que ce soit le bruit de la mort aujourd'hui aussi. Nous le saurons bientôt. À quoi de Warren va-t-elle donner naissance? À un bébé, comme nous l'espérons toutes? Ou à autre chose, un non-bébé, avec une tête, comme une tête d'épingle, ou un museau de chien? Ou deux corps? Ou un trou dans le cœur, ou des mains et des pieds palmés. On ne peut pas le savoir. On le pouvait, jadis, avec des machines. Mais c'est maintenant interdit. À quoi cela servirait-il de savoir, de toute façon? On ne peut pas les faire passer. Dans tous les cas, il faut mener la chose à terme. Les chances sont d'une sur quatre. Nous l'avons appris au centre. L'atmosphère est devenue trop saturée un jour, de produits chimiques, rayons, radiations. L'eau grouillait de molécules toxiques. Tout cela prend des années à se purifier, et entre-temps, cela vous rampe dans le corps, assiège vos cellules graisseuses. Qui sait, votre chair elle-même peut être polluée, sale comme une plage huileuse. Mort certaine pour les oiseaux du littoral et les bébés pas encore nés. Peut-être un vautour mourrait-il s'il vous mangeait. Peut-être êtes-vous lumineuse dans le noir, comme une horloge démodée. L'horloge de la mort, c'est une espèce de scarabée. Il enterre les charognes. Parfois, je ne peux penser à moi-même, à mon corps, sans voir mon squelette, ce que je suis, vu par un électron. Un berceau de vie fait d'os, et à l'intérieur, danger, protéines déformées, cristaux ratés, ébréchés comme du verre. Les femmes prenaient des médicaments, des pilules. Les hommes aspergeaient les arbres. Les vaches mangeaient l'herbe. Toute cette pisse épicée a coulé dans les rivières. Sans parler des explosions d'usines atomiques, le long de la faille de San Andreas. Sans défaillance humaine, au moment des tremblements de terre. Et la souche mutante de syphilis, qu'aucune moisissure ne pouvait arrêter. Certaines l'ont fait elles-mêmes. Elles se sont fait coudre hermétiquement aux quatre guttes, ou ravager avec des produits chimiques. « Comment ont-elles pu ?» disait Tante Lydia. « Oh, comment ont-elles pu faire une chose pareille ? Jézabel ! Mépriser les dons de Dieu !» Elle se tordait les mains.
C'est un risque que vous prenez, disait Tante Lydia. Mais vous êtes les troupes de choc. Vous serez les avant-coureurs, à pénétrer sur des territoires dangereux. Plus grand est le risque, plus grande sera la gloire.
Elle joignait les mains, radieuse devant notre courage factice. Nous baissions les yeux sur les couvercles de nos pupitres. Supporter tout cela et donner naissance à un déchet. L'idée n'avait rien de plaisant. Nous ne savions pas exactement ce qui arriverait au bébé qui ne passait pas l'examen, qui était déclaré non-bébé. Mais nous savions qu'on les faisait disparaître, quelque part, rapidement.
« Il n'y a pas eu de cause unique, » dit Tante Lydia.
Elle est debout devant la classe, dans sa robe kaki, une baguette à la main. Recouvrant le tableau noir, là où il y aurait eu jadis une carte, il y a un graphique qui montre les taux de natalité par mille, sur des années et des années, une courbe glissante qui descend au-dessous de la ligne de remplacement zéro et continue à descendre et à descendre.
Bien sûr, certaines femmes pensaient qu'il n'y aurait pas d'avenir. Elles croyaient que le monde allait exploser. C'est le prétexte qu'elles invoquaient, dit Tante Lydia. Elles disaient que cela n'avait pas de sens de procréer.
Les narines de Tante Lydia se pincent.
Quelle perversité ! C'étaient des femmes paresseuses, ajoute-t-elle, des catins.
Sur le couvercle de mon pupitre, il y a des initiales gravées dans le bois et des dates. Les initiales sont parfois en deux groupes, réunies par le verbe M. J.H. M. B. P. 1954. O. R. M. L. T. Elles me font penser aux inscriptions dont parlaient mes livres, gravées sur les parois de pierre de caverne, ou dessinées avec un mélange de suie et de graisse animale. Elles me semblent incroyablement anciennes. Le couvercle du pupitre est en bois blond. Il est incliné, et il y a un accoudoir sur le côté droit, où s'appuyer pour écrire, sur du papier, avec un stylo. À l'intérieur du pupitre, on pouvait ranger des choses, livres, cahiers. Ces habitudes du temps passé me semblent maintenant dispendieuses, presque décadentes, immorales, comme les orgies des régimes barbares. M. M. G. 1972. Cette inscription gravée avec un crayon enfoncé avec insistance dans le vernis usé du pupitre a le pathétique de toutes les civilisations disparues. C'est comme une empreinte de main sur la pierre. Celui ou celle qui l'a faite a été un jour en vie. Il n'y a plus de date après le milieu des années 80. Nous devons être dans l'une des écoles qui ont été fermées, faute d'enfants.
« Des erreurs ont été commises, »
dit Tante Lydia.
Nous n'avons pas l'intention de les reproduire.
Sa voix est hypocrite, condescendante. La voix de ceux qui ont pour devoir de nous dire des choses désagréables, pour notre propre bien. J'ai envie de l'étrangler. Je ravale cette pensée presque aussi vite qu'elle m'est venue à l'esprit.
Une chose n'est estimée, dit-elle, que si elle est rare et difficile à obtenir. Nous voulons que vous soyez estimées, mesdemoiselles.
Elle abonde en pause, qu'elle savoure dans sa bouche.
Imaginez que vous êtes des perles.
Assise en rang, les yeux baissés, nous la faisons saliver moralement. Elle peut nous définir à sa guise. Nous devons subir ses adjectifs. Je pense à des perles. Les perles sont de la bave d'huître congelée. Voilà ce que je dirai à Moira plus tard, si j'y arrive.
Nous sommes toutes là pour vous dégrossir,
dit Tante Lydia, avec une bonne humeur satisfaite. Le fourgon s'arrête, les portes arrière sont ouvertes. Le gardien nous fait sortir en troupeau. À la porte d'entrée, il y a un autre gardien, avec l'une de ses mitraillettes camardes suspendue à l'épaule. Nous avançons en rang vers la porte, sous le crachin. Les gardiens font le salut militaire. Le grand fourgon Urgo, celui avec les machines et les médecins mobiles, est garé plus loin, dans l'allée circulaire. Je me demande ce qu'ils peuvent faire là-dedans, à attendre. Jouer aux cartes, très probablement, ou lire. Quelque occupation masculine. La plupart du temps, on n'a pas besoin d'eux. On ne les autorise à entrer que si c'est inévitable.
C'était différent, avant. C'est eux qui étaient responsables.
C'était une honte, disait Tante Lydia.
Honteux.
Elle venait de nous projeter un film, tourné dans un hôpital des jours anciens. Une femme enceinte, reliée par des fils à une machine, avec des électrodes qui lui sortent du corps de tous les côtés, ce qui la fait ressembler à un robot brisé, une aiguille à perfusion plantée dans le bras. Un homme armé d'une torche l'examine entre les jambes, là où elle a été rasée, pitoyable fille imberbe. Un plateau de couteaux stérilisés brillants, tout le monde porte des masques. Une patiente très coopérative.
Jadis, il droguait les femmes, provoquait le travail, les ouvrait au scalpel, les recousait.
Fini, cela. Même plus d'anesthésique. Tante Elisabeth disait que cela valait mieux pour l'enfant. Mais aussi, je multiplierai les peines de ta grossesse. Tu enfanteras tes fils dans la douleur. Au déjeuner, on nous servait cela. Du pain bis et des sandwichs à la laitue. Tandis que je gravis le perron, de larges marches avec une urne de pierre de chaque côté, le commandant de Warren doit avoir un statut supérieur à celui d'une autre. J'entends une autre sirène. C'est l'anatomobile bleue, celle des épouses. Ce doit être Serena Joy qui arrive en grande pompe. Pas de banquette pour elles. Elles ont le droit à de vrais sièges, capitonnés. Elles sont assises dans le sens de la marche et ne sont pas enfermées derrière des rideaux. Elles savent où elles vont. Serena Joy est probablement déjà venue ici, dans cette maison, prendre le thé. De Warren, ex-Janine, cette garce pleurnicharde, a probablement été exhibée devant elle, elle et les autres épouses, pour qu'elle puisse voir son ventre, le tâter peut-être, et féliciter l'épouse. Une fille solide, de bons muscles. Pas d'agent orange dans la famille. Nous avons vérifié les dossiers. On ne saurait jamais prendre trop de précautions. Et peut-être l'une des plus bienveillantes.
Voulez-vous un petit biscuit, ma chère? Oh non, cela lui fera du mal. Trop de sucre n'est pas bon pour elle.
Un tout petit, ça ne peut pas lui faire de mal. Une fois n'est pas coutume, Mildred. Et cette sucrée de Janine?
Oh oui, je peux, madame, s'il vous plaît.
Tellement! Tellement bien élevées, pas désagréables comme le sont certaines, à faire leur travail un point c'est tout. Plutôt comme si c'était votre fille, en quelque sorte, quelqu'un de la famille. Gloussement généreux des matrones, C'est bien, ma chère. Vous pouvez regagner votre chambre.
Puis, après son départ, de petites traînées, tout autant qu'elles sont. Que voulez-vous ? On ne peut pas être trop difficile. Il faut prendre ce qu'on vous donne. Pas vrai, mes amis ? Cela, de la bouche de l'épouse du commandant. Oh, mais vous êtes tellement bien tombée. Certaines, eh bien, elles ne sont même pas propres. Et jamais un sourire, à se morfondre dans leur chambre, ne se lave pas les cheveux, l'odeur. Il faut que je le fasse faire par les Martha, il faut presque les maintenir au fond de la baignoire, il faut pratiquement la soudoyer pour obtenir qu'elle prenne un bain. Et même il faut la menacer. J'ai dû prendre des mesures sévères avec la mienne, et maintenant elle ne mange plus comme il faut. Et quant à l'autre chose, pas une touche, et nous avons parfaitement suivi les règles. Mais la vôtre, elle vous fait honneur. Et d'un jour à l'autre à présent, oh, vous devez être tellement impatiente. Elle est grosse comme une maison. Je pense que vous n'en pouvez plus d'attendre. Un peu de thé ? Changeant de sujet avec modestie. Je sais comment se passent ces réunions. Et Jeanine, là-haut, dans sa chambre, que fait-elle ? Elle est là, le goût du sucre encore dans la bouche, à se lécher les lèvres. Regarde vaguement par la fenêtre, inspire, expire. Caresse ses seins gonflés. Ne pense à rien.